le 7-9 auprès du peuple grec avec Patrick Cohen.
Et le soir, tous des Européens, toujours depuis Athènes, 18h20, 20h, Jean-Marie Colombani, Éric Valmire, Hélène Jouan, Hélène chez les Hélènes.
Invités, reportages, rencontres.
Et même de la musique avec la chanteuse Olga Kouklaki en live.
Alles Europea.
Tous des Européens en direct d'Athènes.
Todos Europaneos.
En partenariat avec le Nouvel Observateur, jeudi matin sur France Inter, à partir de 7h.
France Inter.
La voix est libre.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Pour le loup, contre le loup, venez en discuter au Café Repère de Grasse le jeudi 6 février à partir de 19h au bar chez Sabine, 38 chemin de l'Orme, au plan de Grasse. Voilà, on vous attend.
Salut Mermet, super content de ton émission. Ça fait 25 ans que je râle, je suis de gauche, écolo. Ça fait 25 ans que je râle, que j'entends les mecs de l'UDB et des Verts défendre les écoles d'Iwan, etc., qui sont dans un déni total par rapport à Repart Zemmour et à son histoire, ses rapports avec la résistance, etc., etc. Enfin, t'as presque tout dit, là. Donc, forcément, super content d'entendre cette émission, parce qu'on se sentait seul, on n'est pas très nombreux. Hein.
Je ne peux m'empêcher de réagir suite à votre émission d'hier sur la Bretagne et les Bretons. Je n'ai jamais sympathisé avec aucun mouvement extrémiste, quel qu'il soit, que ce soit Brezata ou autre. J'aime la Bretagne et j'aime la France. Je voudrais quand même préciser que si dans les années 60, au dire de Françoise Morvan, les Bretons ne parlaient plus leur langue, c'est parce qu'on les avait éduqués méthodiquement depuis plusieurs années, par le moyen de l'école, à ne plus la parler, par le moyen de l'humiliation et des sanctions. On a appris aux Bretons à renier leur langue au profit du français. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que pour détruire un peuple, il faut commencer par détruire sa langue. Bien sûr, il fallait unifier la France en mettant au pas les régions qui la constituent. Mais le français, pour l'apprendre, les Bretons l'ont cher payé dans leur dignité. De cela, certains s'en rappellent encore. Dans les années 60, on travaillait difficilement en Bretagne. Il fallait monter à Paris, comme on disait à l'époque, pour espérer trouver de quoi subsister. Et s'en est suivi un exode massif vers la capitale. Mais bien avant 1960, les Bretons ont été bien accueillis à Paris, car ce sont des travailleurs. Les Bretonnes en particulier étaient très appréciées. Celles qui étaient placées comme boniches dans les riches familles parisiennes en ont eu de la reconnaissance à travers cette bande satirique sur Bécassine. Toujours l'humiliation, monsieur Mermet. Quelqu'un a dit: il n'y a que les fleurs artificielles qui n'ont pas de racines. Les Bretons non seulement ont des racines, mais ils ont de la mémoire. Et la mémoire, ça se transmet de génération en génération. Je conviens cependant qu'il faudrait la guérir, cette mémoire, parce que tous ces mouvements dont vous parlez dans votre dernière émission viennent de blessures non guéries, de fierté à retrouver d'une façon ou d'une autre, mais aussi d'un sentiment pour les Bretons d'avoir été grugés en plusieurs domaines. Donc de grâce, avant de juger des faits comme vous le faites, qu'on reconsidère le passé avec plus de parcimonie. Ah, mais c'est vrai, j'oubliais, vous n'avez pas de racines. Michel.
Oui, bonjour, c'est Gilles. Je viens d'écouter l'émission avec Françoise Morvan et je suis très content d'avoir enfin entendu quelque chose comme ça. Moi, je suis né en Bretagne. Ma mère était d'origine normande. Déjà, on m'a fait des remarques quand j'étais petit. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe avec les bonnets rouges et tout ce bazar, je trouve que c'est très bien que les gens sachent ce qui se cache derrière cette autonomie voulue et avec vraiment des bases pas très saines. Ceux qui n'ont pas entendu l'émission et qui s'intéressent à ce mouvement, je leur conseille de réécouter en podcast. Merci beaucoup, continuez comme ça, au revoir.
Oui, bonjour, bonsoir, Daniel. Ici, c'est Jean-Claude Apon-Lavé. Si jamais tu es exclu de France Inter, on te prendra comme réfugié politique dans le pays bigoudin. Continue à défendre la Bretagne. Ici, on ne se laissera jamais faire. Et même au municipal, on attaque directement les incompétents. Et à Pont-l'Abbé, quelque chose de grave qui se passe. Il y a un habitant qui habite dans une roulotte depuis 30 ou 40 ans qui va être expulsé le 10 février. Bon, j'espère que tu iras voir ça et on te tiendra au courant de la suite des événements. De toute façon, on va gagner la mairie de Pont-l'Abbé, les citoyens. Kenavo.
Bon, ben voilà, j'ai déjà une possibilité de repli à Pont-l'Abbé. Merci. Ouh, on a eu des messages dans tous les sens. Suite à l'émission d'hier avec Françoise Morvan sur la couleur des bonnets rouges. Ouhou, effectivement, je crois que blessure non guérie, Il doit y avoir quelque chose comme ça. Évidemment, le but n'était pas du tout de blesser quiconque, vous vous en doutez bien, mais voilà, de s'intéresser à une mémoire visiblement assez enfouie dans ce cher pays breton. En tous les cas, merci à tous. Aujourd'hui, un souvenir de mon enfance. La voix de ma mère qui me dit « Le bon Dieu te regarde même quand tu es au cabinet ». Oui, elle disait ça, ma maman. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je parle de ça parce que je pense à Google, à Facebook, à Twitter et à Amazon, qui en savent plus sur moi que moi-même. Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. en savent plus sur vous que vous-même, sur votre vie sexuelle, sur vos idées politiques, religieuses, sur vos amis, sur vos folies, sur vos achats, vos maladies, vos vacances, vos rêves. Ces choses-là, je n'ai pas dit ces gens-là, on savent beaucoup plus que vous-même. Vous savez ça, hein, c'est un sujet qui revient, qui nous hante de plus en plus. Et nous produisons à chaque instant des millions, des milliards de données, c'est-à-dire data, big data. Voilà le pétrole d'aujourd'hui, les données massives. Les révélations d'Edward Snowden, vous vous souvenez, sur les écoutes planétaires de la NSA et des services américains ont montré la connivence avec Google, Facebook, etc., et les autres réseaux sociaux et NSA. Et puis, plus discrètement, parce que ça, les Américains, Big Brother, nous regardent, mais nous, avec notre petite DGSE, eh ben, on est pas mal non plus, plus discret, mais on procède pas différemment. Et la récente loi de programmation militaire montre le bout des grandes oreilles de la grande muette. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, les données, ces traces numériques que nous produisons, qui les récupère, à quoi servent-elles, nous regarde, c'est une affaire énorme, absolument énorme. On pouvait, est-il trop tard, aller vers un véritable progrès avec Internet et la révolution numérique. Mais il y a du boulot pour lutter contre ceux qui s'accaparent ainsi notre intimité, nos secrets, et nous laissent complètement, plus qu'à poil, absolument démunis, transparents. Et ce qui est une grande inquiétude, face à laquelle il y a des remèdes, il y a des défenses possibles, mais c'est un sujet majeur, vous le savez bien, et on va l'aborder aujourd'hui avec Give Anctil et des reportage que nous avons fait également aux États-Unis. Le bon Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Chers auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et ses environs, on vous attend très nombreux le mercredi 5 février à partir de 19h au café Les Ramblas, 40 boulevard Gambetta, Nîmes. Nous aborderons et discuterons de tous les sujets mis à l'ordre du jour. À bientôt, Roland Dugard.
Bonjour, je ne suis pas écolo, mais je trouve que les Verts ont raison de désapprouver le Parti Socialiste qui recule devant la droite, voilà, sur des projets de société, alors que les femmes lesbiennes ont parfaitement le droit d'avoir des enfants, comme tous. La droite a réussi à faire reculer le gouvernement. Allez, ciao, c'était Gilbert.
Et figurez-vous que Bagnès a participé ce dimanche à la manifestation pour tous et elle s'est éclatée. Et pourtant elle n'est ni réac, ni facho, ni intégriste. Non, elle est étudiante en histoire et sa spécialité, c'est le Moyen-Âge.
Selon Mark Twain, la démocratie repose sur trois facteurs. La liberté d'expression, la liberté de conscience et la prudence de ne jamais user de la première ni de la seconde. Une définition quelque peu provocante, mais pour vous, AMG du Limousin, que représente la démocratie? Nous vous attendons nombreux pour en débattre au repère de Limoges, mercredi 5 février à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins.
Hi, and Merry Christmas.
Bonjour,
et joyeux Noël. Je suis honoré d'avoir la chance de vous parler, à vous et votre famille.
Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, 26 décembre 2013.
We learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance.
Nous avons appris récemment que nos gouvernements ont créé ensemble un système de surveillance totale qui regarde tout ce que nous faisons.
Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information.
L'écrivain britannique George Orwell nous avait prévenu de ces dangers.
The types of collection in the book, microphones,
mais les moyens utilisés dans son livre, les micros, les caméras et les télévisions qui nous regardent, ne sont rien comparés à ce qui est disponible aujourd'hui.
We have sensors in our pockets.
Nous avons des capteurs dans nos poches qui nous tracent où que nous allions.
Think about what this means for the privacy of the average person.
Réfléchissez à ce que cela signifie pour la vie privée de chacun.
Et l'info du jour concernant l'Ukraine sur les réseaux sociaux, eh bien c'est ceci. Des SMS d'avertissement sont envoyés en pleine manifestation aux manifestants dans leur camp.
LCI, 23 janvier 2014.
Qui sont en fait géolocalisés à cause de leur téléphone portable. Le New York Times explique, nous montre, photo à l'appui, ce extrait des réseaux sociaux de Twitter, que des messages sont envoyés. Chers abonnés, vous êtes enregistrés comme participants à un trouble massif. Voilà ce qu'il est écrit en cyrillique. Et donc, les manifestants sont invités à rentrer chez eux.
Together, we can find a better balance.
Ensemble,
end mass surveillance.
Nous pouvons trouver un meilleur équilibre, mettre fin à la surveillance totale,
and remind the government that if it really wants to know how we feel,
et rappeler au gouvernement que s'il veut savoir comment nous nous sentons,
asking is always cheaper than spying.
C'est toujours moins coûteux de demander que d'espionner.
For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
Merci à tous de m'avoir écouté et joyeux Noël.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Guy Vanctil, le bon Dieu te regarde, même quand t'es au cabinet.
Flight number 2, arriving from New York.
Eh bien, j'ai noté une phrase magnifique. Nous pouvons éradiquer l'ignorance comme la génération précédente s'est débarrassée de la variole.
Yes. In this next decade, the poorest of the poor around the world will have mobile phones, as they do already in India.
Dans la décennie qui vient, les plus pauvres parmi les plus pauvres à travers le monde auront tous un téléphone portable, comme c'est déjà presque le cas en Inde.
We can put every book, every piece of music, every scientific experiment, every map, everything of beauty or utility on every such device.
Et on peut mettre n'importe quel livre, n'importe quelle musique, n'importe quelle carte, n'importe quelle belle chose d'intérêt sur ces dispositifs numériques.
Mais on n'en prend pas le chemin. Vous faites une conférence en ce moment sur Snowden, sur la disparition de l'anonymat, sur la disparition de la vie privée. On ne prend pas du tout cette orientation-là, lumineuse.
Mr. Snowden has performed the basic responsibility of government in democracy, which is to inform the people.
Monsieur Snowden a posé la question de la responsabilité élémentaire de tout gouvernement dans une démocratie, c'est-à-dire informer le peuple.
He said the internet is the greatest invention in human history and they are stealing it from us.
Il a dit l'internet est la plus grande invention de l'histoire humaine et on est en train de nous la voler.
This technology can free or enslave the human race, and without asking the people, the latter is what's happening.
Cette technologie peut aussi bien asservir que libérer l'humanité, simplement on n'aura pas demandé son avis et donc on est en train de la servir.
And so our traditions of politics in the West are from their beginning based on the possibility that freedom dies because it is turned into a mask.
Et dans toute la tradition politique de l'Occident, il y a cette idée, c'est la conscience de ce risque que la liberté meurt quand elle n'est plus qu'un masque.
And Mr. Snowden's revolution has torn off a mask.
Et la révolution qu'a opéré Monsieur Snowden, c'est d'arracher ce masque.
And by doing so, he has raised a question not just about the actions of the American government, but about the actions of all governments.
Et en faisant ça, il a posé la question sur la légitimité des actions du gouvernement américain, mais pas seulement, sur tous les gouvernements du monde.
He has shown that the German chancellor not just allows, but encourages 40 million telephone calls of Germans to be stolen each day.
Il a, par exemple, montré que la chancelière allemande non seulement autorise, mais surtout encourage 40 millions de communications téléphoniques portables allemandes à être enregistrées chaque jour.
And then she plays the ridiculous game of pretending to be offended because her phone is being listened to.
Et après ça, Angela Merkel joue ce jeu ridicule de faire croire qu'elle est choquée de savoir que son téléphone à elle aussi est sur écoute.
This is what happens when masks are removed. The faces underneath are unprepared to be seen so clearly.
Et c'est ça qui arrive quand les masques tombent, c'est que les visages qui sont derrière ne s'attendent pas à être dévoilés ainsi.
Pêcher le client dans une baignoire, bah oui, rien n'est plus facile que de nous avoir. On est parti joyeux sur nos ordinateurs, sur Internet, avec nos iPhones, nos iPads et tout ce... Et avec Google, avec Facebook, avec Twitter, heureux, joyeux de communiquer, de s'exprimer, d'apprendre très rapidement de communiquer. Enfin, c'est une ivresse formidable, formidable. Sauf que, vous le savez, tout ça, tout ce que nous faisons à la seconde près est récupéré, est stocké et croisé. Tous ces renseignements sont croisés les uns avec les autres jusqu'à, effectivement, à ce que quelque part, quelqu'un, une machine bizarre sur laquelle qui se présente sans visage, sait plus de choses sur nous que nous-mêmes. Ça a commencé quand, cette histoire ? Vraiment, la peur de la terreur, la peur du terrorisme, la sécurité, c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Et on se dit, ben oui, c'est vrai, mais on sait bien aussi qu'il faut choisir la sécurité ou la liberté. Plus de sécurité, c'est moins de liberté. Plus de liberté, c'est moins de sécurité. Avons-nous une chance d'échapper à ce harcèlement, à cette emprise, chaque jour plus intime, plus tenace, cette surveillance, cette idée que nous sommes surveillés, que nous n'avons plus de secret, nous n'avons plus d'intimité, c'est comme si, voilà, il n'y avait plus de mur dans notre salle de bain, ni dans nos toilettes, et que nous soyons les uns et les autres absolument à poil dans une, oui, dans une nudité totale, mais une nudité aussi de la tête, une nudité de nos intentions. Il y a quelque chose là de monstrueux, on dirait vrai, les vieux romans de science-fiction des années 50 ou de la fin du 19e siècle. On l'évoque à juste titre, évidemment, Orwell. Alors, eh ben, une balade avec des chercheurs, avec ceux qui réfléchissent sur cette histoire et qui nous invitent au combat.
See my face on the internet. See my face on the walls. I am wanted on MySpace, 'cause I'm a criminal at home. Combien de journaux s'enflamment, blâment mes clics et mes spams. Combien de pages dans la presse, combien de blogs sur mes fesses, combien de crimes je confesse. Moi je fais des hold-ups sur eBay, des braquages de PayPal. Moi je bluffe au poker web. Téléchargeons la planète. J'suis le maître du download.
connectés.
600 millions de télécommunications en une seule journée. C'est le volume de données recueillies par le service des communications du gouvernement britannique, d'après Edward Snowden. Pour y parvenir, un accès direct aux fibres optiques, celles qui assurent le trafic internet et téléphonique.
Voilà que Londres est soupçonné d'avoir espionné le G20 en 2009. Dernier épisode de la tourmente, orchestré par l'ex-agent de la CIA, Edward Snowden.
XKScore, c'est le nom de ce logiciel utilisé secrètement par la NSA. Selon le quotidien britannique The Guardian, le logiciel permettrait une surveillance en temps réel d'Internet.
Snowden, il a révélé l'emprise de NSA sur le monde entier, sur chacun d'entre nous, sur l'intimité de chacun d'entre nous et sur tous les systèmes politiques, économiques de la planète tout entière.
And in doing so, he has also focused people's attention on the behaviors of their own governments.
Et en même temps, il a montré la complicité des gouvernements de tous les peuples dans cette opération.
The Élysée's moment in the light has not happened yet. The result is that no one ever speaks up about listening within the French Republic.
Le visage caché derrière le masque de l'Élysée n'a pas été encore révélé à ce jour. Et c'est pour ça que personne ne parle des écoutes dans la République française. Personne ne s'oppose à ces écoutes.
And the listeners in the French Republic have a much more competitive relationship to the American listeners than the Germans or the British.
Et ceux qui s'occupent des écoutes en France ont une relation beaucoup plus compétitive avec ceux qui font les écoutes aux États-Unis que, disons, les Allemands ou les Britanniques.
France Telecom was created and structured as an agency of the Gaullist state.
France Telecom a été construite et structurée comme une agence dans l'État gaulien.
The mere architecture of its headquarters in La Défense, the arms embracing France, showed how completely it was understood to be an agent of the power at the center.
Et même le bâtiment même de France Télécom à La Défense, avec ses bras qui embrassent presque toute la nation française, montre que dans son principe même, elle était conçue pour être un outil au service du pouvoir.
The superb national broadband network created by the French Republic in the first decade of the 21st century, which gives everybody beautiful internet service at a reasonable price on equal terms for all the citoyens of the Republic, is also a system built to listen to them.
Et l'extraordinaire et le superbe système Internet haut débit qui est accessible à tous les citoyens français, quel que soit le fournisseur d'accès, à un prix relativement raisonnable, est un système parfait pour pouvoir écouter tous les Français.
So the president of the French Republic has both more and less behind the mask than the chancellor of the German Republic when it comes off.
Donc le président de la République française a à la fois plus et moins caché derrière son masque que le chancelier allemand quand son masque tombe.
Je vais vous poser une question sur Edward Snowden. Si M. Snowden demande l'asile politique à la France, est-ce qu'il faut le lui accorder ?
Manuel Valls.
C'est un dossier extrêmement compliqué et si cette personne faisait cette demande, elle devrait être examinée avec attention. Et pour ce qui me concerne, je ne suis pas très favorable.
Mais vous ?
Arnaud Dejean.
Non, parce que quelqu'un qui a sans doute une grande conscience morale mais qui part en Chine et puis en Russie, ça soulève quand même quelques questions.
Pierre Moscovici.
Ça, pour le coup, c'est vraiment pas ma...
Oui, non, c'est pas votre...
Mon
oui,
domaine.
Non, mais d'accord, mais vous pensez... Je, vous
non,
pensez...
Non, enfin, on va pas répondre à des questions hypothétiques.
Donc, c'est demandé, hein, non, il l'a demandé à 21 pays, dont
oui,
la France.
La question sera traitée par qui de droit, mais la question n'est pas posée sérieusement aujourd'hui.
Me voilà pour la suite de ce reportage sur les grandes oreilles qui nous écoutent en permanence. Je suis sur le parvis ventu de la Défense. J'ai rendez-vous ici avec un ancien agent de la DGSE qui est prêt à nous parler mais sous couvert d'anonymat et c'est pourquoi j'ai pris mes précautions. Je suis venu un peu à l'avance au rendez-vous. J'ai pris un téléphone portable qui n'est pas le mien, qui appartient à la radio, avec lequel j'ai pu envoyer un SMS disant OK pour le rendez-vous à 14h30 à la Défense, devant le CNIT, point d'interrogation. Et à quoi des initiales que je ne nommerai pas m'ont répondu. OK, avec plaisir. Je porte une doudou de kaki et un sac à dos noir. Voilà. Et maintenant, du coup, je suis un peu parano, forcément. Je me dis que c'était une très mauvaise idée de faire ce rendez-vous à la Défense, vu le nombre de caméras de surveillance que je vois aux alentours. Bon, maintenant, attendons voir si mon contact arrive.
Que je voulais dire, vous pouvez maquiller d'une certaine façon ma voix ?
Un peu. Pas énormément, je vous l'avoue.
Parce que, il n'est pas impossible que je sois éventuellement réintégré dans l'administration. Après, de toute façon, je ne compte pas vous dire de choses extrêmement secrètes, mais...
Donc, on va essayer de trafiquer un peu la voix. Il se trouve que sur ma chaîne France Inter, Monsieur X est déjà pris.
Oui, c'est vrai.
Comment je vous présente, du coup ?
Monsieur Y, Monsieur Z... Il y a des trucs intéressants que vous devriez savoir que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous n'avez pas à savoir. Ça, j'en suis persuadé. Il y a des choses qui ne regardent pas le public.
Et par contre, vous y connaissez justement en renseignement technique.
Je m'y connais. Disons que j'en suis beaucoup servi.
Alors, comment peut-il expliquer ce que c'est, le renseignement technique ? Parce qu'on a entendu parler de beaucoup de choses suite aux révélations de l'affaire Snowden.
Vous voyez, là, on est là en train de parler tous les deux. Imaginons que vous êtes ma source.
Ouais.
Ce que je fais actuellement en vous posant des questions, vous me répondez, c'est du renseignement humain. En revanche, la caméra de surveillance qui est là-haut sur la tour Suez,
Et
le micro directionnel qui doit être dans la caméra qui est juste là, à côté du lampadaire, ça c'est du renseignement technique. Ça veut dire que quelqu'un va, soit en direct, soit demain ou après-demain, avoir notre entretien filmé. Ça peut aussi être le coup de téléphone que vous allez passer demain à un ami qui vit en Chine et qui sera intercepté par tous les services du monde sur le trajet entre Paris et Pékin, et qui diront tiens, intéressant. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors, ça, c'est du renseignement technique.
C'est-à-dire que le monde un peu que nous dépasse Snowden, c'est une réalité, quoi.
Bien sûr.
C'est toutes les données qu'on peut stocker, tout ce qui circule sur Internet, qui peut être maintenant amassé et retraité, croisé, recoupé avec la géolocalisation.
Alors, c'est un rêve. C'est un rêve d'analyste, ça. Bien sûr que c'est une réalité qui n'est pas qu'américaine, qui est aussi britannique, russe, chinoise, en partie française. On le fait. Franchement, on le fait.
La DGSE, c'est le sigle de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. En France, c'est le nom donné aux services de renseignement qui mènent à l'étranger des opérations clandestines, d'espionnage et de contre-espionnage.
Vidéo de présentation de la DGSE.
Notre mission est d'informer nos autorités sur les menaces, de les anticiper, voire de les entraver si nos autorités nous le demandent. Les priorités de la DGSE sont la lutte contre le terrorisme d'origine radicale islamique, la prolifération des armes de destruction massive et le suivi des zones de tension dans lesquelles nos intérêts, la sécurité de la France et des Français seraient menacés.
Pardon, monsieur. Excusez-moi. Un café, un verre de sucre.
Bien sûr.
Merci, monsieur.
Mais dans quelle mesure vous avez été surpris, vous, en tant que professionnel de la profession, ou en tout cas ex-professionnel de la profession, par tout ce qu'a révélé Snowden ?
Pas surpris une seconde.
Pas une seconde.
Pas une seconde, mais vraiment. Hein. On était mis en garde quand on arrivait au service. On nous disait, vous serez intercepté, vous serez écouté par tout le monde. Comme nous, on le fait. Comme nous, on le fait, bien sûr. Alors, quand on vous dit, les Américains ont 100% des communications. Ça a toujours été un objectif. Alors, effectivement, le numérique, la capacité de compresser des données, d'avoir des serveurs gigantesques, ça vous permet, avec la profondeur technique de ces services, d'en savoir potentiellement plus. Et donc, vous interceptez. Des SMS, des fax, des mails, des navigations Internet, des flux d'achat de cartes bleues, de ce que vous voulez. Vous interceptez tout.
Données de géolocalisation.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Qui écrit qui à quoi ?
Exactement. Et c'est stocké. Vous avez accumulé des données gigantesques, qui sont à la fois extrêmement importantes à l'instant T, mais surtout qui ont une vraie profondeur historique, plusieurs années. Et là, vous pouvez retracer les choses. En quelques heures, parvenir à imprimer le réseau téléphonique complet d'un numéro qui vous intéresse. Là, vous allez avoir tout à ressortir. Pour moi, la NSA, elle révèle aussi ça. La numérisation du monde. Le monde est tout petit et on peut tout savoir. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
Mais justement, est-ce que les Français, ils n'ont pas un peu des complexes avec tout ça ? Je veux dire, les services français. Parce que là, pour le coup, les Américains apparaissent comme la superpuissance qui a à peu près son nez à peu près partout. Alors que nous, notre NSA française, on peut en être fiers.
C'est pas très français d'avoir des complexes. C'est pas tellement le genre. Ou alors, éventuellement, de supériorité. Hein. Alors, bien entendu que pour la masse financière, le nombre de personnel aussi. Il y a 40 000 types à la NSA, par exemple. C'est clair que la DGSE, ils sont quoi, 6000? Il y a évidemment une masse différente, évidemment. Mais ça marche, ça marche. Et on n'a jamais eu à rougir. Alors c'est sûr que si vous prenez pour la France immortelle du général de Gaulle, vous allez avoir un problème, que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire ci, faire ça, vous n'avez pas d'argent, pas assez de personnel. Mais grosso modo, ce qui est fait est bien fait.
Sometime, and it's telling me your galleries are faded, but 500 of your pictures are the same. It looks like you're pissed at every day with your mates at club nights. And I hate to be uptight, but I just find it a shame you're afraid of the sunlight. And why do people never quite look like the profile picture they pick for the front lights? Funny what the camera does to you. That must be why you're stood by someone fatter and uglier. So you look better in comparison, but it's apparent that you're shallow and that that's what you've done here. Nah, you look absolutely fabulous. So let's have a game of Scrabulous. Mafia Wars, Mafia Wars. How many times do I have to click ignore? I didn't want to play it when you asked me before. So what the hell are you still asking me for? If only there was an application that let me smash your face in.
600 million people like me, like this. Are you taking the piss? Or is there something I've missed? 600 million people like me, like this. Are you taking the piss?
Hit applications, invitations, poking open relations. If it's a complicated situation, you won't fix it with switching your status. Suggesting I had a lad that went to my class. I haven't met since reception. Why dredge up the past? We should reconnect, we haven't spoken a while. I know, that's cause I find you totally vile. If we met now, we'd both run a mile. So why is this bloke on my file? Dunno. Next time I'm asked what's on my mind, I might just click in the box and reply.
600 million people like me, like this. Are you taking the piss? Or is this something I've missed?
Jérémy Zimmermann, je vous retrouve dans les locaux de la Quadrature du Net. Vous êtes encore pour quelques jours le porte-parole. Et je viens vous voir parce qu'après avoir rencontré Eben Moglen à New York, on commence à percevoir, comme beaucoup d'auditeurs aujourd'hui, l'importance qu'ont toutes les données qu'on laisse partout, qu'on essaime dès qu'on se balade dans notre monde numérique. Et vous dites, ces données, elles servent pour l'instant à deux types d'organisations, les services de marketing des grandes multinationales et les services secrets qui, elles, stockent tout ça dans la suite de l'affaire Snowden. Alors, quelques points de repère sur qu'est-ce qu'on laisse comme traces et pourquoi ces traces nous suivent.
Ah voilà, oui, c'est un des problèmes les plus essentiels de ce débat. Quelles traces laisse-t-on ? On n'en a pratiquement pas la moindre idée. Quand je dis « on », c'est l'utilisateur lambda d'un service comme Facebook ou Google. On sait que l'on tape quelque chose dans Google. Mais est-ce que l'on sait que chaque frappe sur chaque touche est enregistrée par Google, y compris celle que l'on efface? Mais sait-on que Google sait toutes les pages que vous lisez, du moment qu'elles contiennent une pub AdWords ou le moteur d'analyse Google Analytics? De la même façon, sait-on que Facebook sait toutes les pages que vous lisez à partir du moment où elles contiennent un bouton « like » ? En réalité, c'est toute cette partie invisible de notre ombre numérique, de notre profil, que nous égrenons comme autant de petites miettes de pain sur notre chemin, qui, mise bout à bout, représente un amas absolument colossal de données qui permettent de nous profiler, de savoir très précisément qui nous sommes, notre orientation politique, notre orientation sexuelle, notre statut marital, notre statut socio-professionnel. Et à mesure que le temps passe, ces profils deviennent de plus en plus précis. Et il est à la mode dans certains secteurs de l'industrie, liés pour beaucoup au domaine militaire, de rechercher sur ce que l'on appelle des algorithmes prédictifs, qui pourraient, dans un avenir très proche, à partir de ces profils, commencer à prédire les comportements des individus, dire que parce que vous avez tant fait la fête, été à tel endroit avec telle et telle personne, alors il y a de fortes chances que vous ayez un cancer, que vous ne vous pointiez pas à votre boulot un matin, que vous ne soyez pas fiable, que vous fassiez un défaut de crédit ou quelque chose comme ça. Et l'on voit que c'est en fait la masse de toutes ces données qui nous échappent, en plus de celles que l'on sait laissées à ces entreprises, qui toutes agrégées ensemble représentent bien plus de pouvoir pour qui les contrôle que ce que l'on aimerait bien leur confier.
Si je comprends bien, d'un côté, avec la NSA et les autres services, je me suis baladé comme un nudiste sur Internet, puisque tout ce que je fais, vous voyez et regarde peut-être en tout cas est enregistré et peut être ressorti un jour. Et de l'autre côté, du côté du marketing, je suis un pigeon potentiel, puisque chacun de mes gestes et opérations peut être servi pour me vendre mieux ou plus.
Alors déjà, le marketing, ce serait presque le moindre mal. Ce que l'on a vu aux États-Unis dans le courant de l'année dernière, c'est que des compagnies d'assurance s'intéressent à acheter les données de Facebook. Et là encore, on pourrait voir qu'en fonction des gens que vous connaissez, en fonction des endroits où vous partez en vacances, en fonction des heures auxquelles vous vous connectez, donc de vos heures de sommeil, on pourrait déduire votre état de santé et augmenter vos primes, par exemple. On se doute que dans le secteur bancaire, il doit y avoir le même appétit pour ce genre de données, pour pouvoir décider si vous êtes quelqu'un de fiable, de régulier, quelqu'un qui a plus de chances de rembourser son crédit et vous l'accorder ainsi ou non. J'ai tendance à dire que le marketing, c'est vraiment peut-être le cadet de nos soucis dans les exploitations commerciales qui pourraient être faites de ces données. Après, c'est vrai que c'est dans le secteur du renseignement que là aussi ces données sont juteuses, croustillantes. Et ce qui met un petit peu mal à l'aise, c'est qu'on a aujourd'hui la preuve, avec les révélations d'Edward Snowden, que l'on ne peut plus vraiment faire la différence entre cette surveillance privée et cette surveillance par les États. On voit que la première agence de renseignement au monde, c'est Facebook. Peut-être à ex-aequo avec Google, et que la NSA, en allant piocher dans les données de Facebook et de Google, s'économise des montagnes d'efforts pour collecter ces mêmes informations. Donc c'est ça l'une des vraies révélations, l'un des enjeux clés de cette bataille pour tenter de restaurer la protection de notre vie privée. C'est vraiment cette espèce de collusion malsaine entre la surveillance privée à des fins commerciales et la surveillance des États à fin de flicage global paranoïaque des populations.
Voilà Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net qui explique les choses très très clairement, et notamment cette capacité de prévoir, cette capacité prédictive, prévoir les comportements et, dit-on, la capacité d'arrêter l'assassin avant même qu'il commette son crime. On en sait tellement sur celui-là qu'on finit par l'arrêter avant même qu'il commette son crime. Il y a des applications possibles sur la santé, avec toutes ces données que vous laissez partout, que nous laissons partout. On peut prévoir que si vous continuez comme ça à manger de telle façon, à faire ceci, à faire cela, compte tenu des renseignements qu'on a sur vous, eh bien, vous allez faire un diabète ou un AVC dans 6 mois, dans 1 mois, dans 1 an. Ça, c'est le côté, évidemment, formidable de cette histoire. Ce serait formidable. Mais manque de chance, ça ne prend pas ce chemin-là. Il y a donc un véritable combat, il y a un enjeu très très important, et ça se passe pas seulement, c'est pas seulement une affaire là-bas américaine de la NSA, c'est aussi chez nous, là, juste à côté.
Et Jérémy Zimmermann, justement, on a beaucoup parlé de Snowden, de la NSA, des services américains. Mais et nous, les Français, alors, pendant ce temps-là, on ne parle pas beaucoup de l'équivalent français. Alors, est-ce qu'on est vraiment des petits joueurs ou...
Bon, déjà, c'est sans comparaison. Le budget de la NSA, c'est, je crois, 11 milliards de dollars par an. Donc le budget de la DGSE, c'est un dixième, moins d'un dixième.
C'est 600 millions cette année.
Voilà, c'est ensuite. Nous n'avons pas en France Google, Facebook, Microsoft et Apple. Ce qu'il faudrait ajouter le coût de ces infrastructures dans le budget global du renseignement US, maintenant qu'on sait que les deux sont indissociables. Donc en France, le contexte est un petit peu différent, mais on vient de faire adopter cette fameuse loi de programmation militaire, adoptée au pas de charge, là, au propre comme au figuré.
Qui vient d'être passée en décembre dernier.
Et qui contenait dans son article 13, désormais article 20, des dispositions très inquiétantes qui élargissent énormément le cadre législatif de la surveillance par une série d'amendements. Ces parlementaires ont décidé que, à des fins de lutte contre le terrorisme, allait être remplacé par au motif énoncé à l'article L141-2, blablabla. Ce qui veut dire lutte contre la criminalité organisée, mais aussi préservation du patrimoine économique et scientifique de la France. Et là, il y a un os. Parce que préserver le patrimoine économique de la France. Potentiellement, c'est des ZIG qui vont empêcher un aéroport de se construire ou qui vont bloquer un camion de déchets radioactifs. Ou ça peut même être, on pourrait imaginer un journaliste qui, par ses révélations, mettrait en péril la stabilité d'une grande entreprise française de cosmétiques. Ensuite, sur la façon dont cette surveillance ciblée pourrait être mise en œuvre, on voit qu'il s'agit d'accéder à ces données potentiellement en temps réel. Et donc, on a là, en France, depuis quelques semaines, voté un système qui permet d'écouter absolument tout et n'importe quoi sur quasiment n'importe qui, par quasiment n'importe qui, puisqu'il s'agit du personnel de 3 ministères qui peuvent désormais accéder à cette surveillance. On a profité vraiment, dans la foulée des révélations de Snowden sur la surveillance de masse aux États-Unis, à adapter notre cadre législatif pour une surveillance de masse en France. La réaction de la France à la surveillance de masse, c'est la surveillance de masse.
Nous vous avons parlé ici même il y a quelques semaines du scandale des écoutes des services de renseignement américains soupçonnés d'avoir espionné des millions de conversations.
TF1.
En France, un article de la loi de programmation militaire adopté hier soir par le Sénat suscite quelques inquiétudes.
11 décembre 2013.
Il permet dans certains cas aux autorités d'accéder aux données téléphoniques et informatiques sans autorisation judiciaire. Certains craignent déjà des abus.
Des dizaines de milliers de données informatiques et téléphoniques, les enquêteurs les utilisent depuis bien longtemps, dans des conditions pas toujours très transparentes. Depuis hier, c'est donc le cadre législatif de cette surveillance à grande échelle qui a changé. Concrètement, la loi prévoit qu'un policier, un gendarme, un agent du fisc ou un douanier est accès sans l'accord d'un juge et en temps réel aux informations précieuses des opérateurs téléphoniques, des fournisseurs d'accès à Internet et des hébergeurs de sites, factures détaillées, géolocalisation et données échangées, telles que les emails ou les photos. Qui parle à qui, depuis quel endroit, qui dit quoi ? Il faudra uniquement un accord préalable, écrit et signé par Matignon. La loi doit entrer en vigueur dans les toutes prochaines semaines.
Là, on arrive dans un périmètre où il y a des barrières, des murs.
Protégés, des. Ah ouais, là c'est protégé là.
Zone interdite, on voit des caméras de surveillance panoramiques tous les 50 mètres.
Zone protégée. Alors là, c'est pas des fils de fer barbelés. Hein.
Ah non, c'est des. Comment ça s'appelle ? C'est des plus pointus, hein, disons.
Ouais, ça fait beaucoup plus mal. Hein.
Alors voilà, alors on va. On se demande toujours qui va surveiller les surveillants. Là, c'est des espions qui vont essayer d'espionner les espions.
Parce que là, c'est quoi, alors ? On est venu jusqu'ici dans notre voiture banalisée, je le répète, Jean-Marc Manac.
Voilà. On est au Fort de Noisy. Alors, Fort de Noisy, c'est un fort Vauban qui, depuis pas mal d'années, est le QG du service action de la DGSE, donc les gens qui sont envoyés sur le terrain, à l'étranger, mais qui est également le QG de la direction technique de la DGSE. Et la direction technique de la DGSE, c'est celle qui est en charge, effectivement, de l'espionnage des télécommunications. C'est un peu le monsieur Q de James Bond, celui qui sort tous les gadgets possibles et imaginables pour arriver à pouvoir protéger les communications, soit espionner des télécommunications. Je suis plus habitué à le visiter depuis Google Earth que depuis la Terre. Et sur Google Street View, on voit des chèvres qui sont en train de se reposer, parce qu'en fait, c'est le forêt de Vauban, c'est aussi une zone écologique protégée.
Exactement.
Parce qu'une espèce de crapaud qui est super rare en France ou en Île-de-France, et donc c'est une des rares zones écologiques protégées du 93. Et il y a aussi, je ne sais plus si c'est des poneys ou des chevaux, qui pèsent donc autour du service action et de la direction technique de la DGSE. Et ça fait partie, pareil, c'est renseignements source ouverte. Là, c'était pas dans un appel d'offres. C'était dans une fiche que j'ai trouvée sur un site écolo qui s'intéresse justement aux coléoptères et aux crapauds.
Encore une autre source internet, donc.
Ouais, c'est fou ce qu'on trouve sur internet. Hein.
Et alors là, on est en train de rouler dans une petite zone pavillonnaire, toute tranquille, entre Romainville et Noisy. Et là, c'est sur notre droite, maintenant, on voit pas derrière ces maisons, mais il y a tout un coin arboré qui correspond au fort, quoi. Donc on va essayer de faire le tour du propriétaire.
On va peut-être passer devant les chèvres, mais je sais pas si on les voit, parce que comme il pleut...
Ouais.
Alors là, par contre, c'est marqué zone protégée, et j'ai l'impression que c'est pas marqué interdiction de photographie.
Ah bon, on va s'avancer un peu, voir 2 secondes. Et alors, il y a un bleu, blanc, rouge, en tout cas.
Donc, terrain militaire défense d'entrée.
Donc c'est ici que sont les chefs des écoutes françaises. notre NSA à nous, elle est un peu là, quoi.
Les chefs sont là, la direction technique sont là, les sous-chefs sont là, après les petites mains, elles sont un peu partout, en France et sur le globe. Et il se dit qu'ils sont en train de construire un bunker, enfin d'utiliser un ancien bunker pour fabriquer le gros data center qui va permettre de pouvoir stocker, traiter et analyser les big data de toutes les données qui sont interceptées par la DGSE.
Un peu comme le font les États-Unis et la NSA en ce moment, dans l'Utah, ouais. Où ils sont en train de construire le gigacentre de stockage de données, de alors toutes les données.
C'est pas la même échelle au sens où il y a beaucoup moins de moyens en France que n'en ont les Américains.
Et là, on revient dans la zone un peu plus vivante de Romainville, où il y a les magasins, mais tout
c'est
le long...
C'est là où viennent les gens du service action de la DGSE, c'est peut-être là où ils viennent faire leurs courses, acheter le pain...
J'ai presque envie manger. D'aller au troquet du coin pour voir ce qu'ils en pensent.
On va essayer de se garer.
Alors messieurs, bonsoir. Nous voilà dans le garage de Romainville. C'est un vrai garage à l'ancienne, ça, je trouve.
Ça fait 23 ans que je suis ici.
Donc vous connaissez le secteur?
Un petit peu.
Bon, allez, moi, je vais vous parler de ceux qui sont en face. Mmh. En face de derrière ce grand mur avec ces grandes pointes où il y a écrit « Zone protégée ».
C'est une annexe du ministère de la Défense. Il y a les services secrets là-dedans.
Ah,
il y a 3000 personnes qui y travaillent. Oui, ils sont beaucoup clients ici. C'est des gens instruits, des gens très intéressants. Il y en a là-dedans qui, des fois, je ne les vois plus pendant 2 ou 3 ans. Ils reviennent, ils me disent « j'étais en mission à tel pays, ouais. J'étais au Mali, j'étais en train de garder telle ambassade. Ou... » oui.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce que, c'est quoi?
Non,
la...
on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis rentré une fois là-dedans pour faire un dépannage. Il faut passer dans un sas, laisser son téléphone. On est pas...
C'est eux qui appellent, là. On est repérés.
C'est un client.
Parce que c'est ça, hein. Pour expliquer à monsieur, ici, c'est les grandes oreilles, c'est la NSA française.
Bah, bien sûr, ça, on le sait. Après, j'ai des amis gendarmes qui nous disent qu'automatiquement, eux, s'ils parlent, ils écoutent ce qui se passe autour. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est ça ?
Ils savent tout ce qui se passe.
Bien sûr.
Oui, ils me l'ont dit, ça.
Ah, quand même !
Oui. Ils savent tout ce qui se passe. Moi, il y en a un, il m'a dit, non, c'est tout ce que vous faites.
Et ça vous a pas foutu la pétoche ?
Pas du tout. Alors moi, ça me dérange pas d'être observé, j'ai rien à cacher. La pétoche, moi, je suis honnête, alors, donc. Moi, je cache pas grand-chose, hein.
Bon, bah écoutez, vous leur direz bonjour de notre part la prochaine fois que vous les voyez.
Je rentrerai pas. C'est quelle radio déjà?
France Inter.
France Inter.
Mais bon, hey, entre nous, je suis sûr qu'ils le savent déjà.
Ouais. Peut-être.
Ah, ça, c'est sûr.
Peut-être.
Bah, oui.
Eh ouais, le bon Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. C'était un reportage de Guy Van Til et de votre serviteur. Merci à Eben Moglen, Jérémy Zimmerman, Jean-Marc Manac et Monsieur Y. À lire « La vie privée, un problème de vieux con ?» pour l'interrogation. Un livre de Jean-Marc Manac chez FIP, édition FYP. FIP, édition. Et vous pouvez aussi visiter le site de la Quadrature du Net, l'association co-fondée par Jérémy Zimmerman. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, j'y suis et vous pouvez réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et allez faire un tour sur la page Facebook de là-bas, j'y suis, à la technique aujourd'hui, Henri Bérec et David Federman. Montage Guy Van Til et Jonathan Duong. Cette émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud. Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base J'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Vous ne fatiguez pas? Moi, j'ai fait tout le tour et vous êtes toujours là avec le micro. Non, c'est le boulot.
Et vous faites quoi?
Je suis sculpteur. Et je suis venu voir un peu plutôt les œuvres des artistes exposées que l'ensemble de l'exposition, mais en même temps je connaissais le sujet, puisque ça a agité quand même toute la France pendant des décennies, avec des hauts et des bas, on connaissait pas, mais on savait quand même, on connaissait le terme, les fusillés pour l'exemple. Ça, tout le monde l'a entendu plus ou moins. Donc tout ça, évidemment, est absurde, mais ça remonte très loin. Ceci dit, des choses analogues se produisent encore de nos jours.
Par exemple,
analogues, mais dans les pays en guerre, forcément. Donc, les commémorations, c'est bien gentil, mais en réalité, il faudrait aussi parler beaucoup, et avec des expos semblables, de ce qui se passe maintenant sur tous les continents, pratiquement. Donc, c'est là où je suis un peu partagé de ces concernant ces commémorations qui, tout d'un coup, parce que 100 ans se sont écoulés, il faut en parler, et dans le même temps, des gens tombent tous les jours. Et cela, peut-être qu'on parlera dans 100 ans, à nouveau. Donc il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait normal.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris où se déroule cette exposition Fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République. Exposition gratuite jusqu'au 7 mars. Et vous êtes sculpteur et quel est votre nom ?
Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous sommes 7 milliards sur Terre.
Merci. Vous n'avez jamais sculpté de monument aux morts ou rendu hommage à ces fusillés ?
Là, vous dites un drôle de truc. J'étais étudiant. Pour gagner ma vie, j'ai fait quelques restaurations de sculptures. Et à la Porte Dorée, et j'ai honte aujourd'hui, je ne savais pas, je n'avais pas analysé la commande, j'ai restauré la sculpture qui était devant ce qu'on appelait les musées des colonies, Porte Dorée, qui est maintenant autre chose.
C'était l'immigration.
Voilà, c'était l'immigration. Et donc, devant, sur la pelouse, il y a une sculpture qui montre des Noirs portant les fusils de leurs colonisateurs blancs qui avance dans cette sculpture en pierre, fièrement devant, et derrière il y a les porteurs. Et donc j'ai restauré cette sculpture il y a fort fort longtemps, et j'ai réalisé qu'après qu'il y avait un problème, que je n'aurais pas dû toucher à cette sculpture, qu'il fallait la laisser tomber telle qu'elle était en poussière. Et comment j'ai réalisé, pourtant je suis politiquement assez impliqué, mais en même temps j'avais une commande, je gagnais ma vie, je l'ai faite, et j'ai pas bien analysé la chose, j'étais très jeune, c'est qu'une femme de la Nouvelle-Orléans, une enseignante, s'est arrêtée avec son appareil photo devant, qui a photographié la sculpture et qui m'a agressé en disant « Pourquoi faites-vous ça ?» Et c'est là où j'ai compris. Elle venait de loin, Nouvelle-Orléans. Et elle se demandait pourquoi je restaurais cette chose, pourquoi je ne la détruisais pas. Donc, c'est l'Amérique qui m'a fait la leçon, alors qu'eux aussi, ils ont fait pas mal de saloperies. Et ils continuent à les faire. Comme quoi, il y a des hasards, comme ça, des rencontres.
Mais vous avez continué à restaurer, malgré ce qu'elle vous a dit. Vous avez honoré votre commande, quoi.
J'avais pas de bombe sous la main, donc j'ai terminé. Bonne visite. Ceci dit, il y a une toile magnifique. Comment s'appelle-t-elle ? Thérèse Biche. Une grande toile fantastique. Je trouve que c'est une des œuvres les plus marquantes. Et d'après ce que j'ai entendu, j'ai écouté les gens autour, apparemment, c'est une spécialiste de la Grande Guerre et en même temps artiste. Ce qui fait qu'elle est peut-être, elle a exprimé encore plus fortement ses sentiments que ceux qui ont travaillé sur commande. Bonsoir, merci.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. C'est vous qui avez peint cette grande toile ?
Oui, oui, monsieur. Alors voilà, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris, et en sculpture, donc j'étais sculpteur au départ, et j'ai abandonné la sculpture dans les années 77 à peu près, pour me mettre à la peinture, et dans le même temps, j'ai travaillé à la BDIC en tant que commissaire.
Vous avez travaillé où ?
À la BDIC, Musée d'Histoire Contemporaine. Donc, et j'ai travaillé en tant que conservateur de musée. Je me suis occupée de la photo en 14-18. J'étais en fait la première à expurger tous ces photographes, ce qu'ils avaient fait, comment ils étaient, pourquoi ils avaient fait, etc. Et j'ai cessé mon activité il y a 5 ans. Et j'ai toujours peint, j'ai fait des expositions et tout. Enfin, ça a été quelque chose de continu. Et de fil en aiguille, si vous voulez, cette mémoire de photographie est restée dans mon esprit. Ça s'est complètement imbriqué dans mon esprit. Et depuis 2005 à peu près, je me suis autorisée, je me suis autorisée à peindre cette guerre et je suis viscéralement dedans. Et...
Décrivez-moi votre toile. On y voit des soldats
de dos. Alors, je vais vous expliquer ma toile. Ce sont des soldats de dos qui se recueillent sur des tombes de fusillés. Alors, il y a 11 fusillés. Nous sommes grosso modo en 14, hein, parce que j'ai conservé les pantalons Garaours. Il y a 3 poteaux d'exécution et ils se recueillent parce que, en fait, ça n'est pas toléré. On ne leur interdit pas formellement, mais il n'est pas toléré qu'on aille se recueillir sur le tombe, entre guillemets, de renégats, de gens qui ont failli à la nation.
C'est-à-dire qu'après les avoir fusillés, il y a comme enterrés. Une culpabilité et ils se recueillent sur ceux qu'ils ont fusillés.
Je pense qu'il y a aussi une question de religion. On est encore dans un état religieux malgré le moment de, comment dirais-je, la séparation de l'Église et de l'État, mais on est quand même encore très religieux.
Est-ce que ces soldats qui se recueillent, on peut penser que ce sont eux qui ont fusillé.
Ils ont fusillé, c'est évident.
Ah, c'est évident.
Il y a 12 gars qui vont fusiller. Il y en a un qui a une balle à blanc.
Pourquoi il y en a un qui a une balle à blanc ?
ça encourage les autres. C'est-à-dire que tout le monde...
Ils disent peut-être qu'en tirant, je ne ferai rien.
Voilà, c'est ça. Et sur les poteaux, on sait qu'il y a à peu près de 5 à 6 impacts de balles. Donc on sait qu'il y en a 5-6 qui n'ont pas tiré.
Et si on veut en savoir plus sur vos œuvres, eh bien, ce n'est pas compliqué. Thérèsebiche.com.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se trouve demain.
France Inter présente American Bluff, un film de David O. Russell. 10 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleures actrices et meilleurs acteurs.
Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad.
Un couple d'arnaqueurs est obligé de s'allier au FBI pour infiltrer la mafia et piéger un homme politique corrompu.
It's gotta be the best we've ever done.
Avec Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Amy Adams et Jennifer Lawrence. Retrouvez American Bluff au cinéma le 5 février dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et le Théâtre de l'Atelier présentent à partir du 11 février Marguerite Duras, Les Trois Âges, mise en scène par Didier Besas. De Savannah Bay à Marguerite et le Président, en passant par le Square, Marguerite Duras, Trois Âges, Trois Visages, Trois Écritures différentes.
Qui êtes-vous ?
Je ne me souviens jamais exactement.
Regardez-moi. Je viens tous les jours vous voir.
Oui, on joue aux cartes, on raconte des histoires.
À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Aurélie Bambuc.
Le projet de loi famille sera mené à bon port. Jean-Marc Ayrault tente de rassurer à l'Assemblée nationale cet après-midi, au lendemain du report du projet. Le Premier ministre a rappelé que les réformes seraient proposées au fur et à mesure. Il a promis que le gouvernement serait attentif à toutes les propositions des groupes parlementaires pour avancer concrètement. Les députés socialistes ont applaudi debout l'intervention de Jean-Marc Ayrault sans applaudissement. Les députés écologistes sont restés assis. Ils considèrent ce report comme un recul inacceptable. L'audience au tribunal de commerce de Pontoise suspendue, l'examen de l'offre de reprise du transporteur Maury Ducrot en attente. Des négociations se dérouleraient entre le candidat à la reprise, Arcol, et la CFDT. Le premier syndicat de l'entreprise a refusé de signer l'accord collectif ce matin. Arcol a lancé un ultimatum, si pas de signature, pas d'offre, ce qui entraînerait une liquidation judiciaire et la suppression de 5000 emplois. En Tunisie, une opération antiterroriste lancée depuis hier a fait 8 morts, un gendarme et 7 membres d'un groupe armé. Ils s'étaient retranchés dans une maison de la grande banlieue de Tunis. L'opération est terminée, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Elle a permis de retrouver des armes, des bombes et des ceintures d'explosifs. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à l'essor de groupuscules islamistes armés. 3 mineurs en garde à vue après l'agression d'un jeune handicapé mental dans l'Isère. Une agression filmée et diffusée sur le réseau social Facebook, déclenchant indignation et colère. Le père de la victime, indigné par cette humiliation, dénonce un acte commis par des lâches qu'il faut punir. 2 adolescents ont été arrêtés hier, un 3e ce matin. Ils doivent être présentés cet après-midi au parquet de Grenoble. Le jeune handicapé de 18 ans n'a pas été blessé dans l'agression, il a porté plainte. Un plan de bataille d'1,5 milliard d'euros, le plan cancer présenté ce matin par le président François Hollande, le 3e du genre. Avec près de 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en France. 350 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Dans un discours à la Mutualité à Paris, le chef de l'État a dit son ambition de donner les mêmes chances à tous partout en France pour guérir. La priorité donnée à la lutte contre le tabac, François Hollande veut avant l'été un programme national de réduction du tabagisme. Le cancer du poumon reste le plus meurtrier en France. 3 départements bretons placés en vigilance orange, vague submersion. Les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan sous la menace d'un fort coup de vent cet après-midi, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 140 km/h sur les côtes. La météo du mois de janvier qui aura égalé des records de chaleur en mois de janvier aussi chaud qu'en 1936 et 1988. Dans son bilan climatique mensuel, Météo France fait état de températures supérieures au normal d'un mois de janvier de 2,7 degrés.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au studio 105, la rencontre rétro-futuriste, un producteur en vue et un songwriter d'exception, Broken Bells. Le soul du spoken word d'Anthony Joseph.
was a black whip of a woman.
Et l'insolence pop rock turquoise de Bosco Del Rey.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de musique qui ne porte pas de titre. On dit une troisième sonate, un deuxième trio, une quatrième symphonie. Et puis, il y a celle qui, par exemple, comme un certain concerto de Vivaldi, s'appelle La tempête de mer, et puis la sonate pastorale chez Beethoven, etc., etc. Alors, est-ce que c'est véritablement une description? On ne peut pas dire. Antonio Vivaldi, né à Venise le jour d'un tremblement de terre, évidemment, a pu être inspiré par la mer remuante, mais cette tempête est assez modérée. C'était fait pour être joué dans des habitations assez chics, et donc il ne fallait pas quand même bouleverser le mélomane. Aujourd'hui, quand on regarde le film Titanic, par exemple, on voit vraiment des vagues. En tout cas, quand même, un peu d'agitation dans le premier mouvement de ce concerto de Vivaldi. Le premier mouvement du concerto La Tempête de mer d'Antonio Vivaldi, avec au violon en soliste Enrico Onofri. C'est lui qui a écrit aussi la cadence, le passage libre qu'on a entendu, et il jouait avec l'ensemble Il Giardino Armonico. Les titres donnés aux œuvres sont quelquefois apocryphes. C'est pas Beethoven toujours qui a choisi vraiment les titres qu'il a voulu écrire sur ses partitions, mais la tradition fait qu'on appelle par exemple la 15e sonate pour le piano, sonate pastorale, parce qu'elle est extrêmement sereine, on va dire, presque champêtre. Il y a quelque chose de doux, effectivement, et on ne peut que penser avec un peu de tristesse, avec un serrement de cœur à ce Beethoven qui avait une oreille tellement extraordinaire quand il était jeune, qui entendait les oiseaux à des kilomètres, ou la flûte d'un berger, et puis après, qui a été muré, malheureusement, dans sa surdité. Et il y a un très beau texte de Jérémy Zipman qui dit sur Beethoven quelque chose de tout à fait essentiel. Voici. Par sa propre expérience intérieure, souvent angoissée, il transforma l'individuel et le personnel en universel. Dans ses plus grandes pages, il n'exprime pas le chagrin, mais l'essence du chagrin, ni la simple allégresse, mais l'essence même de la joie. Non seulement l'héroïque, pas seulement ça, mais la nature même de l'héroïsme. Donc c'est l'homme qui est allé au fond du cœur de la psychologie de ses semblables et qui nous a livré ça sous forme de musique. Voici un peu de la 15e sonate dite pastorale de Ludwig van Beethoven, le premier mouvement, Allegro.